Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu une ville qui est relativement peu connue, qui est la ville de La Paz. Peu connue parce que c'est pas une très très grande ville, le pays lui-même est pas forcément également très médiatisé par rapport à, en fait, à ce qui s'y déroule. Pas très connu parce que c'est un pays qui est enclavé. Il y a rarement des pays dans le monde qui sont très enclavés, et la Bolivie en Amérique latine fait partie des deux pays qui sont enclavés, qui n'ont pas un accès direct à la mer, ce qui explique aussi que généralement, quand on parle un peu de la Bolivie, c'est à cause de son accès à la mer, qui est lié à des aspects historiques. Bon. Donc c'est un pays qui, d'un point de vue d'organisation, est divisé en trois grandes parties. Il y a une partie qui est sur la frange andine, une partie qu'on appelle des vallées centrales, donc un petit peu plus bas en altitude, et une partie qu'on appelle des llanos, des plaines, qui sont des plaines sur la périphérie du bassin amazonien, où on a un petit peu un paysage qui peut ressembler à une partie du Brésil. Enfin, c'est une partie qui est vraiment rattachée à ce qu'on peut connaître sur le Brésil. Alors, je voulais simplement commencer un petit peu en parlant aussi des représentations qu'on peut avoir de ce pays. Donc généralement, quand on connaît la Bolivie, donc c'est souvent à cause de son enclavement, à cause également de sa ruralité. Souvent, la Bolivie, c'est le pays de la pomme de terre. Effectivement, c'est un des pays où la pomme de terre est originaire. Il y a des milliers de variétés de pommes de terre. C'est aussi, quand je dis un pays rural, c'est que c'est lié aussi à l'indianité qui occupe ces zones rurales. C'est également un pays qui est connu dans son aspect rural par ses paysages. Il y a effectivement des paysages absolument magnifiques. C'est pas un pays spécialement très touristique en Amérique latine, pas du tout touristique pour l'Amérique latine. En revanche, le peu de tourisme qu'il peut y avoir en Bolivie, souvent à partir du Chili, c'est pour visiter le Salar d'Uyuni, qui est un très très vaste désert sec, froid, à cause du peu de pluviométrie, fait remonter le sel à la surface. Donc c'est un très beau paysage, rude, mais notamment qui permet aux colonies de flamants roses de pouvoir se développer. Et c'est aussi un pays qui, dans les représentations, est connu pour son folklore, et notamment un carnaval, qui est le carnaval d'Oruro, qui est une des villes boliviennes, qui était classée au patrimoine de l'UNESCO comme patrimoine intangible. Donc ça fait partie des quelques représentations qu'on peut avoir de la Bolivie. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment parlé de ville, qui est pourtant mon thème. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de ville? Parce qu'en fait, en Bolivie, on peut se demander ce qu'est la ville. C'est généralement pas à travers les villes qu'on aborde la Bolivie. Et quand on parle éventuellement de ville, c'est plutôt pour voir un petit peu dans le passé ce que représentait la ville. Alors, je dis dans le passé, parce que quand on entend aussi un petit peu parler de la Bolivie, c'est souvent de la ville de Potosi, puisque c'est ce qui a fait la richesse de la couronne espagnole. La très grande majorité des ressources espagnoles, de la couronne espagnole au moment durant toute la conquista, la conquête, provenait des mines de Potosi. On a souvent l'impression que ces richesses venaient du Mexique, etc., des temples aztèques qui pouvaient être pillés, ce genre de choses. En fait, la très grande majorité des ressources venaient de cette mine d'argent de Potosi. Et donc cet argent était exploité, et toujours d'ailleurs exploité, dans ces veines du Cerro Rico, et ensuite était à dos de mulet, envoyé sur la côte du Pacifique, à port de Callao, au port de Lima, et donc réexpédié vers l'Espagne. Et également, lorsqu'on s'intéresse à la ville en Bolivie, on peut avoir donc la ville de Sucre. Alors, cette ville de Sucre semble plus classiquement une ville coloniale, hein, des maisons relativement basses, qui sont planchées à la chaux, avec des toits à la tuile hispanique. Donc ça, c'est effectivement l'image plus traditionnelle qu'on peut avoir de la ville créée par les conquistadors. En fait, c'est la capitale constitutionnelle, qui n'héberge pas le gouvernement. Donc c'est un petit peu l'intérêt de parler aussi de La Paz, parce qu'effectivement, La Paz héberge le gouvernement, mais la capitale, dans les textes, est Sucre, qui est en fait une ville relativement petite. Le siège du gouvernement, c'est La Paz et L'Alto. Ce sont deux villes qui forment une agglomération, même si institutionnellement, il ne s'agit pas d'une agglomération. Cette agglomération, c'est une urbanisation qui a été assez rapide ces dernières décennies. un contexte géodynamique qui finalement est relativement peu favorable au développement d'une ville de cette taille. 1 500 000 habitants au recensement de 2001. Alors il n'y a pas eu de recensement plus récent, ils sont en cours de recensement. On peut imaginer aujourd'hui qu'on est certainement pas loin de 2 millions d'habitants, mais bon, il n'y a pas de chiffres pour le confirmer pour l'instant. 2 millions d'habitants, pour vous situer, la Bolivie, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Et donc, ce contexte fait qu'en fait, il y a très régulièrement des endommagements, ce qu'on appelle des catastrophes, qui sont considérées par les habitants de la ville comme des grandes catastrophes pour eux, pour leur développement urbain, mais qui en fait sont quand même à relativiser comparé à ce qui peut se passer dans beaucoup d'autres villes. En revanche, ces catastrophes, ou plutôt ces dommages qui sont réguliers, on peut se poser une question sur le développement de cette ville. Parce qu'en fait, même s'il ne s'agit pas de très grosses catastrophes, elles sont très fréquentes. Chaque année, il y a des problèmes. Et donc, ça veut dire qu'il faut réparer, essayer d'éviter ces catastrophes. Donc ça coûte quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça amène à interroger les politiques de gestion des risques qui sont mis en place, puisque dans ce cadre de catastrophes assez fréquentes, les autorités municipales ont mis en place depuis très très longtemps en fait des politiques de gestion des risques, et on verra dans le développement de cette présentation que ça a des conséquences sur le phénomène de métropolisation, la construction de cette agglomération. Donc pour parler un petit peu de ces aspects, je vais d'abord vous présenter un petit peu ces deux villes qui forment une agglomération, pour ensuite voir un petit peu plus en détail les aménagements pour protéger la ville contre les catastrophes, et en même temps en quoi ces aménagements en fait, crée quelque part le risque auquel s'expose cette ville. Ce qui permettra de réfléchir un petit peu dans un dernier temps, sur les contradictions entre la maîtrise des enjeux du développement urbain à travers cette maîtrise des dommages que cette ville peut subir, et cette nécessité pour une ville d'être dans un processus de développement. Ou en tout cas, considéré par les autorités comme une nécessité d'être dans un processus de développement. Donc, deux villes qui a priori s'opposent, donc La Paz et El Alto. Alors, pour commencer un petit peu à vous présenter cette agglomération, ces deux villes, vous avez dans la topographie deux choses très très différentes. Bon, enfin, trois choses si vous voulez. La cordillère andine, donc là on est facilement à 5-6 000 mètres d'altitude, bon, c'est quand même assez élevé. Un plateau qui est un petit peu urbanisé ou fortement urbanisé, ça dépend un petit peu de comment on voit les choses, et puis une rupture et une espèce de cuvette, donc qui est la cuvette dans laquelle s'est installée la ville de La Paz, et puis sur le plateau, sur l'altiplano, on a la ville d'El Alto. Donc physiquement, il y a déjà, ou dans les conditions physiques, un contraste assez important entre ces deux municipalités, ces deux villes. Donc cuvette ou vallée andine contre plateau andin, et également, vu l'altitude à laquelle on est, un gradient écologique et climatique assez différent. El Alto, quel que soit l'endroit où on se situe sur le territoire de la municipalité, on est au moins à 4000 mètres d'altitude. Donc 4000 mètres d'altitude, c'est déjà relativement rude, imaginez un petit peu vous à 4000 mètres d'altitude, enfin les points en France qui sont à cette altitude, les conditions climatiques qui sont assez particulières. On a beau être proche de l'équateur, on est quand même dans un espace qui est relativement froid. C'est un espace comme c'est plat qui est balayé par les vents. Hein. Les vents viennent de l'ouest et descendent vers la cuvette. Et de l'autre côté, donc cette cuvette qui est assez profonde, dans le bas de cette cuvette, on est à peu près à 3200 mètres. Donc on passe à la rupture entre les deux villes de 4000 mètres à 3200 mètres sur une distance qui est relativement très courte. Donc ça veut dire que les déclivités sont très très abruptes. Pour vous donner également une idée, pour certaines rues, les voitures ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rue qui est tracée, mais la déclivité est tellement forte que le véhicule arrive à un moment où il n'a plus l'énergie pour pouvoir continuer à monter. Donc il est obligé de faire des détours par lacets pour pouvoir atteindre la rue. Et également, à 4000 mètres d'altitude, il y a moins d'oxygène, c'est-à-dire que les moteurs qui brûlent de l'oxygène, les moteurs à explosion, ça explique aussi pourquoi ils perdent de la puissance pour monter. Donc les déclivités sont vraiment très très abruptes. Ce qui fait que le contraste entre les deux villes est également très, très important, puisque à El Alto, on peut se déplacer encore à pied. À La Paz, c'est pas possible, enfin, relativement difficile à cause des déclivités. Même pour un piéton, ça devient vite difficile, encore une fois, parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'oxygène. Mais cette cuvette, elle présente aussi de l'avantage d'être protégée justement des vents relativement froids de cette zone andine. Et dans le contraste écologique, donc il fait forcément plus froid sur les hauteurs que dans le bas de la vallée. Et donc, une des grandes particularités également de cette ville comparée aux idées qu'on a des villes du Sud, généralement dans les villes du Sud, les plus riches s'installent en hauteur, parce qu'ils sont protégés un petit peu, si on parle des inondations, des zones, si on est dans une zone tropicale chaude, là où il y a de l'eau, des moustiques, etc. Donc on cherche à s'élever en altitude quand on a de l'argent. À La Paz, c'est tout à fait l'inverse. Les pauvres vivent en altitude et les plus riches vivent le plus bas possible, parce qu'on y vit forcément mieux. On gagne quelques degrés aussi de température, donc il n'y a pas du tout de chauffage dans cette ville. Enfin, c'est rare d'avoir du chauffage, donc gagner 3-4 degrés par rapport au plateau, c'est assez important. Donc c'est assez intéressant, on reviendra tout à l'heure dessus, c'est que les pauvres sont au-dessus des populations riches, ce qui est assez rare. Dans les villes du Sud, ça se passe rarement de cette manière, parce que généralement aussi c'est une manière de contrôler pour les populations les plus riches ce qui se passe autour d'elles, et là les populations les plus riches n'ont pas ce contrôle. Cette ville de La Paz, donc, elle a été fondée par les conquistadors à leur arrivée, donc à la fin du XVIe siècle, et c'est déjà une ville qui a été transférée. Elle a été construite quelques mois sur l'altiplano, et puis suite à une catastrophe, le premier hiver qu'ont passé les Espagnols sur l'altiplano, ils se sont rendus compte qu'il faisait froid, que leurs bêtes mouraient, etc. Donc très rapidement, quelques mois après la fondation de La Paz, ils ont décidé de déplacer la ville. Ce qui est très classique aussi dans le monde hispanique, hein, les Espagnols fondaient des villes et puis les déplaçaient assez rapidement quand ils se rendaient compte que les conditions étaient finalement peu favorables au développement d'une ville. Donc ils ont déplacé la ville de l'altiplano vers la cuvette, justement pour être protégés un petit peu des conditions climatiques. Donc la ville de La Paz s'est développée dans cette cuvette. On a un espace comme ça de maisons posées là où elles peuvent être posées. Il y a vraiment très très peu d'espace plat dans cette ville pour développer cette agglomération. Donc au moment de la conquête, ça ne posait pas de gros problèmes parce que la ville était relativement petite. En revanche, depuis la fin du XIXe siècle, depuis grosso modo l'indépendance de la Bolivie, la ville a commencé à se développer et commence maintenant à être assez, assez grande par rapport à l'espace disponible. La ville a été construite par les Espagnols donc, dans une région qui n'a pas beaucoup d'intérêt, on va dire, ne serait-ce qu'agricole, on peut quasiment rien produire si ce n'est des pommes de terre à cet endroit. C'est une ville qui a été construite, fondée par les Espagnols, simplement pour contrôler cette route, je vous disais, entre Potosi et le port de Callao à Lima. Hein, c'est une zone simplement de contrôle du transfert de l'argent qui était produit à Potosi. Donc c'était une ville de contrôle de l'espace, c'était pas du tout une ville de production agricole telle qu'on peut en trouver ailleurs dans le monde hispanique. Ce qui est intéressant avec El Alto, c'est qu'El Alto, donc, contrairement à La Paz, c'est une ville qui est, elle, beaucoup plus récente. Ça a été une périphérie de La Paz, hein, c'était une extension de La Paz à force de croître. Il y a une petite extension qui s'est faite sur le plateau, notamment en fait au début du XXe siècle, vers les années 20-30, où on a construit un aérodrome. Donc on ne pouvait pas le placer dans la cuvette, il n'y avait pas la place. Donc on a construit l'aérodrome sur l'altiplano, et c'est comme ça qu'El Alto s'est développé comme une espèce de quartier périphérique, une espèce de verrue, si je peux employer ce terme, de La Paz. Et El Alto n'est devenu une municipalité, une commune, que très récemment, c'est en 1988, qu'elle est devenue une ville indépendante de La Paz. Jusqu'en 1988, c'était un quartier de La Paz. Donc les deux villes sont très liées l'une avec l'autre, d'un point de vue développement urbain, d'un point de vue historique. Ce qui est également important à souligner, c'est que ce qui est assez classique aussi dans les villes de tradition hispanique, c'est qu'il y a toujours eu une ségrégation quand même relativement forte entre les populations ladino ou espagnoles et les populations d'origine indienne. Et donc dans la ville de La Paz, il y avait une séparation, c'est aussi pour être très schématique, les Espagnols vivaient dans la partie la plus plate de la ville, et puis les Indiens les repoussaient déjà sur les versants, les zones les plus escarpées, ce qui est le cas également des l'Alto. Et l'Alto, c'est dans l'imaginaire aussi la ville indienne. Le groupe ethnique indien dominant dans cette partie de la Bolivie, c'est les Aymara, donc c'est la ville des Aymara. Il y a très peu d'Espagnols, d'origine espagnole, on va dire, qui vivent à El Alto, pour plein de raisons différentes, mais essentiellement aussi parce que c'est la ville où les Indiens ont été repoussés. Donc dans l'imaginaire, c'est pas une ville où les Ladinos, les descendants d'Espagnols, vont aller vivre. Alors, je reviens un petit peu aux aspects plus chiffrés. Donc je vous dis, c'est à peu près 1,5 million d'habitants en 2001. Donc il n'y a pas de recensement qui est plus récent que celui de 2001. C'est 800 000 habitants pour La Paz et puis 700 000 habitants pour El Alto. Plus que le constat du nombre d'habitants aujourd'hui, c'est sur l'évolution, ça devient assez intéressant. Entre 1950 et 2008, la population d'El Alto a été multipliée par 80 par rapport à celle de La Paz. Ça vous donne un petit peu une idée de la rapidité avec laquelle la population d'El Alto a cru. Donc l'ensemble de l'agglomération, enfin les deux villes, ont vu leur population augmenter, mais pas du tout à la même vitesse. Et dans cette évolution de la population, donc jusqu'au recensement 2001, la population de La Paz est un petit peu plus importante que la population d'El Alto, mais bon, elle se fait rattraper assez rapidement. Et dans les projections de population pour 2008, la projection de population faite par l'Institut National de Statistique de la Bolivie donnait une population d'El Alto plus importante que celle de La Paz. En fait, on pense même qu'en 2001, la population d'El Alto était déjà plus importante que la population de La Paz. Simplement, au recensement, la population d'El Alto, qui est une population encore essentiellement de migrants relativement récents, en 2001, ces migrants sont largement repartis dans leur zone rurale pour une question de propriété foncière. En fait, ils avaient peur qu'en n'étant plus sur leur terre, on leur enlève la propriété foncière qui était liée à une redistribution à partir des années 50. Donc une grande partie de la population est repartie en zone rurale le temps du recensement. Donc on pense déjà qu'en 2001, la population d'El Alto était beaucoup plus importante que ce que le recensement donne comme chiffre. Donc cette population a cru quand même assez rapidement sur un temps très court, et le poids d'El Alto par rapport à La Paz est aujourd'hui assez important. Et cette traduction démographique se traduit également dans l'espace. La superficie de l'agglomération a fortement augmenté. Entre 1976 et 2007, on a la superficie de La Paz qui a été multipliée par 5,5, ce qui est également assez important. Imaginez la ville de Marseille, sur une quarantaine d'années, voir sa superficie multipliée par 5, c'est quand même assez important. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde l'évolution de cette superficie urbaine, on voit aussi que El Alto croît très, très rapidement dans l'ensemble de l'agglomération La Paz-El Alto, même si La Paz, entre 92 et 2007, a fortement augmenté sa superficie urbaine, mais El Alto la rattrape aussi très, très largement. Ce que je n'ai pas encore précisé, que je vais préciser maintenant, c'est qu'en fait, La Paz est un cul-de-sac. C'est une cuvette qui est complètement fermée. On ne peut pas sortir par la partie sud et par la partie nord vers la vallée de Songo, qui est en fait une vallée qui est pareil, quasiment un cul-de-sac. Donc il n'y a aucune voie de communication importante qui sort de La Paz. Pour sortir de La Paz, il faut remonter sur l'altiplano. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que non seulement les pauvres vivent au-dessus des riches, mais en plus, les pauvres contrôlent aussi l'accès, enfin, l'entrée et la sortie de cette ville de La Paz où vit la population la plus aisée de l'agglomération. Ce qui est encore important à souligner pour bien préciser un petit peu ce contexte de cette agglomération, quand on regarde l'évolution de cette agglomération par rapport aux autres villes du pays, Donc la Bolivie est pas du tout un pays urbanisé, enfin très très urbanisé. La population est devenue à majorité urbaine au recensement de 2001. Donc c'est très 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 récent. Et quand je dis à majorité urbaine, c'est à peine plus de 50% de la population qui vit en zone urbaine. Et les zones urbaines, c'est à peu près la même définition qu'en France, c'est des espaces de plus de 2000 habitants, agglomérés, etc. Donc ça peut recouvrir beaucoup de choses, et en fait ça recouvre beaucoup de choses qui ressemblent relativement peu à de l'urbain, finalement. Donc la ville de La Paz s'est essentiellement développée à partir du début du XXe siècle, enfin la fin du 19e, début du XXe siècle, au moment de l'indépendance. Je dis la capitale est Sucre, mais en fait les chefs de gouvernement, pour diverses raisons, étaient souvent originaires de La Paz et se sont installés à La Paz. Et donc un petit peu de facto, le siège du gouvernement s'est installé à La Paz. Mais officiellement, ça n'est pas la capitale. Donc à partir du moment où le siège du gouvernement s'est développé à La Paz, La Paz a pris aussi un petit peu de poids. Et puis il y a aussi une tradition industrielle qui a fait que La Paz se développait. On voit qu'au fur et à mesure qu'on avance vers aujourd'hui, que le poids de La Paz devient de plus en plus important. Mais surtout, on voit qu'à partir de 1976, deux villes commencent à sortir un petit peu du lot, qui sont Cochabamba et Santa Cruz. En fait, les gouvernements, à partir des années 50, qui sont des gouvernements militaires, ont décidé de développer un axe urbain, La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Et donc, on voit effectivement qu'à partir des années... Enfin, entre le recensement de 50 et le recensement de 1976, que ces trois villes ont tendance à ressortir un petit peu du lot. C'est le cas en 88, elles prennent plus de poids, alors que des villes, je dis, historiquement importantes comme Potosi, comme Sucre, elles grandissent également, mais finalement, proportionnellement aux autres villes, elles perdent plutôt du terrain. Et donc une situation en 2001 qui est assez intéressante, où la ville de Santa Cruz, au recensement 2001, a plus de population que la ville de La Paz. La Paz reste la première agglomération grâce à El Alto. Sans El Alto, Santa Cruz est beaucoup plus important en termes de population que La Paz. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette ville de Santa Cruz, c'est devenue la capitale économique. Santa Cruz, c'était en 1900 absolument rien. C'était vraiment un petit village. C'est une ville qui est devenue importante parce qu'en fait, donc je disais, dans les années 50, les gouvernements militaires ont développé un front, essentiellement un front pionnier agricole, essentiellement autour du soja. Et donc la ville s'est développée autour de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, enfin d'abord agricole et ensuite agro-industrielle, on peut dire. Donc c'est devenu la capitale économique de la Bolivie. En plus, on a découvert, enfin, il y avait des zones d'hydrocarbures. Le gaz bolivien provient essentiellement de cette région du sud de Santa Cruz. Et donc, il y a, en plus de l'industrie agroalimentaire ou l'agro-industrie, l'industrie d'hydrocarbures qui s'est développée et qui s'est installée essentiellement à Santa Cruz pour contrôler ses champs d'exploitation. Donc, Santa Cruz, c'est la grande ville, la ville moderne, la ville importante en population. Et donc la Paz s'est retrouvée dans une situation où son hégémonie était contestée, et contestée à deux échelles. D'une part, cette ville de Santa Cruz qui prend de l'importance, du poids, et donc qui conteste l'importance de la ville de La Paz sur à peu près tous les fronts, et à une autre échelle qui est l'émergence de cette ville d'El Alto, qui est quelque chose de relativement récent. Je vous dis, c'est une ville qui est née officiellement en 88 et qui prend du poids en termes démographiques, mais également en termes spatiaux. Donc pour la ville, les autorités municipales de La Paz, c'est sûr que c'est une situation qui est un petit peu particulière à gérer. Et dans cette situation, la ville de La Paz, c'est ce que je vais développer maintenant, va se recroqueviller autour des enjeux environnementaux. Elle va vite se dire, face au développement de Santa Cruz, face au développement d'El Alto, moi je suis une municipalité qui a besoin de montrer qu'elle est dynamique, qu'elle croit, qu'elle a de l'espace à proposer, etc., etc. Et donc elle va mener une politique d'aménagement qui n'est pas récente, mais qui s'accentue ces dernières années, qui essaye de trouver du terrain à bâtir, du foncier à proposer aux habitants, aux infrastructures, etc., mais qui a du mal. Et pour essayer de proposer ces espaces à bâtir, elle déclenche aussi des processus qui l'entraînent à s'endommager ou être endommagée de plus en plus fréquemment. Je reviens un tout petit peu sur les conditions physiques pour expliquer plus cette situation. Donc El Alto, c'est à peu près effectivement plat, alors que dans La Paz, on est dans une cuvette, et une cuvette qui est drainée par, par un tas de cours d'eau, le drain principal étant le rio, enfin le torrent La Passe. Non, ce sont ici, comme en contexte montagnard, sont des torrents, donc qui sont en fait d'écoulement intermittent. Je dis en fait parce que dans la réalité, ces torrents servent aujourd'hui de réseau d'évacuation des égouts, hein, ce qui est à peu près aussi classique dans les villes du sud, aussi finalement dans les villes du nord, hein, on a fait la même chose. Donc on a du mal à maintenant, enfin, ce sont plus des torrents intermittents, il y a de l'eau en permanence puisque les égouts s'y jettent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc cette cuvette est un réseau qui est assez important, qui dessine de cette topographie accidentée, alors qu'à El Alto, on a essentiellement deux grands torrents, le rio Seque et le rio Seco, qui s'écoulent, qui appartiennent à un autre bassin versant, pas du tout le même bassin versant que celui de La Passe. La Passe a un bassin versant qui est amazonien, alors que le bassin versant d'El Alto va vers le lac Titicaca, donc il est sur l'altiplano. Donc des conditions topographiques et physiques qui vont être vraiment, vraiment différentes, avec un réseau important qui va régulièrement, vu la topographie, le régime des pluies crée assez facilement des inondations et par rapport à la topographie des éboulements, des glissements de terrain, alors qu'à l'Alto, le phénomène existe, mais il est quand même beaucoup plus limité. Donc des conditions quand même assez différentes à gérer. Et donc, on en arrive à ces inconvénients du site. La Passe, une topographie où les terrains sont très meubles. C'est pas du tout, enfin, on n'a pas des roches en place qui sont des roches résistantes, hein, sont essentiellement des argiles. Donc des roches meubles qui peuvent rapidement aussi s'imprégner d'eau et donc glisser. Donc je vous dis, la déclivité est vraiment très très importante. Et le ruissellement, il ne pleut pas beaucoup. On a moins de 600 mm de précipitations par an. Donc 600 mm, c'est vraiment très peu, mais c'est concentré sur quelques mois, grosso modo de décembre à février. Et quand il pleut, bah, c'est par gros orages. Donc il y a une puissance des précipitations qui est assez importante. Et par la topographie, bah, on peut imaginer que l'énergie de l'eau qui ruisselle est beaucoup plus importante également, parce que sur des distances très courtes, elle a des distances longues à parcourir. Donc l'érosion est vraiment très, très, très importante. Et donc ces contraintes physiques font que bon, on a dans un contexte montagnard de précipitations, donc sur quelques mois par gros orages et de torrents. Donc on a des crues qui sont des crues éclairs, qui provoquent donc des crues très rapides. On n'a pas des crues qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est quelques heures au maximum, parfois 2-3 jours, mais c'est vraiment rarement plus que ça, mais qui créent beaucoup de dégâts. Les terrains étant peu stables, des glissements de terrain de manière très régulière, et ce qu'on appelle également des fontis. Alors, les fontis, c'est simplement des éboulements du sol par le dessous, si vous préférez. Je veux dire, il y a tout un réseau hydrographique très développé. Parfois, le réseau hydrographique est souterrain, et donc le réseau hydrographique souterrain vient également, quand il pleut, attaquer le substrat rocheux, et donc tout à coup, le sol s'effondre, parce que donc il y a ces drains qui passent sous la ville. Donc un contexte très, très particulier. La manifestation des dommages, des risques, et ces manifestations sont très, très, très nombreuses. Et donc l'endommagement ou les dommages dans cette ville augmentent très, très, très fortement. Si on regarde donc les investissements qui sont faits pour prévenir les catastrophes, les risques, ça représente pour une municipalité comme La Passe déjà des sommes assez importantes, une part assez importante de son budget. C'est à peu près 10% du budget de la municipalité qui passe en prévention des catastrophes. En même temps, elle doit intervenir de plus en plus pour gérer des urgences. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet d'interroger un petit peu la politique de gestion des risques qui est pratiquée par cette municipalité. D'un côté, elle investit beaucoup d'argent et de plus en plus d'argent pour gérer les risques. D'un autre côté, elle doit faire de plus en plus d'interventions d'urgence. Alors, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Une des manières serait de se dire, bah voilà, dans les sommes qu'elle investit pour le risque, il y a des choses d'intervention d'urgence, genre les pompiers, des services municipaux qui vont, je sais pas, consolider les terrains qui s'éboulent, etc. Donc ça pourrait être une des conséquences, effectivement, des sommes investies. Finalement, dire, comme on investit de l'argent, eh ben, ça se voit sur le terrain parce qu'on fait plus d'interventions d'urgence. C'est peut être une explication de ces sommes qui augmentent, mais ça peut être aussi, en dépit de l'investissement qui est fait pour gérer les catastrophes, on doit intervenir de plus en plus. En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut certainement lire ce qui se passe à La Passe. Donc on a des sommes importantes qui sont investies pour gérer les catastrophes ou les petits dommages réguliers, fréquents qui affectent la ville. Et parallèlement, les autorités municipales doivent intervenir de plus en plus fréquemment en termes de gestion des situations d'urgence, parce que finalement, malgré les sommes investies, les catastrophes ne sont pas forcément contenues. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce deuxième point, c'est qu'en dépit de l'argent qui est investi, vu les conditions climatiques et géophysiques dans cette agglomération, effectivement, les autorités municipales ont du mal à gérer ces dommages, ces catastrophes. Pour voir un petit peu ce deuxième point sur le développement métropolitain, les aménagements et donc les constructions des risques, il faut essayer de partir d'un premier point qui est sur l'organisation, le fonctionnement de cette agglomération. Donc, on a deux municipalités qui sont distinctes, mais qui ont besoin l'une de l'autre. Tout un ensemble d'équipements sont à El Alto et fonctionnent pour El Alto et La Paz, et inversement, tout un ensemble d'équipements sont présents à La Paz et fonctionnent pour El Alto. L'organisation, le fonctionnement de cette agglomération ne peut pas s'imaginer, enfin en tout cas ne peut pas se concevoir, sans lier les deux villes. Simplement, les aménagements à La Paz sont assez problématiques. Je vous dis, c'est une ville qui a relativement, à cause de sa topographie, peu de terrain à pouvoir urbaniser. Donc pour pouvoir urbaniser des terrains, elle est obligée de faire des aménagements. Il n'y a que cette manière-là qu'elle peut récupérer un petit peu de terrain urbanisé. Alors par exemple, le long des cours d'eau, systématiquement les cours d'eau vont être canalisés, parfois vont être complètement... Enfin, on va les faire passer dans des drains pour gagner de l'espace. En faisant passer les cours d'eau soit dans des, enfin, autour de deux murs de contention de ces torrents, ou mieux à l'intérieur des drains, ça veut dire qu'on peut vite construire, enfin, on peut construire le plus possible au bord de ces cours d'eau, et quand c'est des drains, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on peut même construire par-dessus les drains. Typiquement, quasiment toutes les voies de communication à La Paz sont construites au-dessus des drains, donc qui canalisent les principaux cours d'eau. Ce qui explique aussi, je vous disais tout à l'heure, les fontis. Hein, comme il y a des cours d'eau qui passent sous les routes, bah très généralement, ces cours d'eau, il y a un moment ou l'autre, ils ont beau passer dans des drains, les drains n'ont pas forcément la capacité d'évacuer beaucoup d'eau tout à coup, donc vont venir attaquer les ouvrages d'ingénierie et donc détruire les routes qui passent par-dessus. Donc, pour fonctionner, cette ville a besoin d'aménager fortement son espace, beaucoup plus que dans des villes du sud telles qu'on peut les imaginer. Et ce qui est vraiment paradoxal dans cette situation, c'est que plus ils aménagent, plus ils vont contribuer à l'occurrence d'événements qui vont créer de l'endommagement. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Cette ville de La Paz, ça, c'est deux options pour s'agrandir. C'est soit d'urbaniser les versants, c'est pas très facile, mais enfin bon, c'est à peu près ce qui se passe, soit d'aller vers la zone qu'on appelle sud, donc le fond de vallée, en aménageant essentiellement les cours d'eau. Alors, les deux options posent des problèmes. Je dis les cours d'eau, ben, parce que je viens de vous expliquer qu'ils ont beau être canalisés, en fait, ils débordent assez régulièrement. Pourquoi est-ce qu'ils débordent assez régulièrement? C'est que c'est assez illusoire de penser que, par tous les calculs scientifiques imaginables, qu'on puisse réellement calibrer des ouvrages d'ingénierie pour éviter que le cours d'eau déborde. C'est la vie normale d'un cours d'eau, c'est d'être en crue à certaines époques de l'année. Donc on pouvait faire tous les calculs possibles et imaginables. Ce cours d'eau, il y a un moment ou l'autre où il va quand même sortir certainement de son lit. Et c'est d'autant plus vrai que pour faire ce genre de calcul de paramétrage des ouvrages d'art, il faut déjà avoir des données très précises sur la pluviométrie, sur la vitesse à laquelle arrive l'eau de ruissellement, etc. Ce qui sont des données qu'on n'a pas à La Paz, tout simplement. Donc les données étant déjà lacunaires, c'est quand même assez difficile de calibrer les ouvrages d'ingénierie pour éviter les inondations. Sur les versants, je vous dis, le terrain étant très très peu stable, il y a très régulièrement aussi des glissements de terrain parce qu'on ne draine pas, parce que c'est difficile de faire des fondations profondes dans ce genre de sol, et puis même si on le faisait profonde, ça tient relativement peu. Ça nécessite donc, pour aménager, développer la ville, des investissements qui sont importants, notamment en termes de construction d'ouvrages. Donc sur les versants, c'est essentiellement des investissements pour des murs de contention pour éviter les glissements de terrain. Et puis dans la partie sud de la ville, la zone qui s'appelle sud et la zone de Mayasa, c'est essentiellement des protections, des cours d'eau. Soit on canalise, soit fois on fait passer ces cours d'eau dans des drains. Mais donc ce qui est assez intéressant à signaler, c'est que ces aménagements, ça modifie très fortement les processus physiques. Donc on contient une partie des processus physiques, on arrive à, là où c'est construit, on va dire, à gérer le glissement de terrain ou à gérer le débordement du cours d'eau. Mais généralement, en faisant ça, on modifie l'ensemble du processus. Il ne va peut-être pas y avoir une crue à l'endroit où on a créé, effectivement, où on a canalisé le cours d'eau. En revanche, on déplace certainement le phénomène un petit peu plus loin en aval. Et donc, plus on essaye de contenir ces processus physiques, ces aléas, plus en fait on crée les dommages. Et donc en partie, ces menaces et ces catastrophes qui ont lieu à la passe sont le résultat des aménagements urbains. Ça n'a plus grand-chose à voir avec le processus physique naturel en lui-même. C'est vraiment les aménagements qui en eux-mêmes vont favoriser cette destruction de la ville ou cet endommagement de la ville. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile quand on parle de catastrophe naturelle. Bon, moi, c'est un terme que je n'emploie pas parce que pour moi, il n'y a plus grand-chose de naturel dans ces processus. C'est vraiment un processus qui est autoconstruit par les populations. Donc, en dépit de tous ces aménagements et du coût que ça représente, on a des situations de crise qui sont très fréquentes. Donc, par exemple, en 2002, on a eu un très gros orage de grêle qui a complètement paralysé la ville pendant plusieurs semaines, qui a créé des dégâts vraiment très très importants et qui était en fait à l'origine, puisqu'il n'y avait pas de système bolivien de gestion de crise, à l'origine d'un système de gestion de crise et bolivien et d'ailleurs à l'échelle de la municipalité de La Paz, parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Quand je vous disais, c'est pas des grosses catastrophes telles qu'on peut l'imaginer quand on parle de catastrophes dans les pays du Sud, ça a fait 69 morts. Donc on peut imaginer que c'est finalement pas beaucoup, comparé à d'autres catastrophes dans les pays du Sud. Sauf que bon, pour une ville, c'est quand même relativement traumatisant, et surtout la manière dont ça s'est fait. Ça s'est passé de jour en pleine semaine. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que ces 69 morts, ce n'est pas des gens qui ont été emportés par une maison sous un glissement de terrain. La plupart, ce n'est pas des personnes qui sont mortes noyées dans l'inondation, c'est des personnes qui sont mortes de froid. Parce que c'est un orage de grêle, enfin c'est un orage qui, à cette altitude, tombe sous forme de grêle. Et les grêles, c'est très facilement, rapidement, puisque les rues sont étroites, etc., un mètre de grêle qui s'entasse. Donc on ne peut plus marcher, on peut difficilement se déplacer. Donc ça s'est passé en pleine journée, dans le centre de La Paz. Les gens donc étaient dans le centre, n'ont pas forcément pu, notamment les femmes commerçantes, se protéger. Et donc elles sont vite tombées dans les grêles, et puis le temps de les récupérer, de les envoyer vers des hôpitaux, parce qu'on pouvait difficilement circuler à cause de la grêle, elles sont mortes de froid, quoi. Donc c'est vraiment un phénomène qui n'est pas spécialement lié au processus physique lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que donc, face à cette situation de catastrophe, donc je vous dis qu'ils ne sont pas des très grosses catastrophes, et à cette construction d'ouvrages pour protéger, on peut imaginer un petit peu à d'autres pistes pour réfléchir à la gestion des risques. On peut réfléchir en termes d'adéquation, notamment spatiale, entre des ressources pour gérer les situations de crise et puis les besoins de gestion de crise. Alors, cet orage de grêle en février 2002, donc c'est passé dans la journée, à 16h, enfin un petit peu avant 16h, et un jour de la semaine. Ça veut dire que en fonction du moment temporel où se produit la catastrophe, la population ne se trouve pas du tout aux mêmes endroits. Et donc, dans la journée, en pleine semaine, on voit bien que des populations se concentrent à certains endroits. Donc, en termes de gestion des ressources de crise, ça veut dire qu'il faut peut-être penser à l'adéquation spatiale de ces, je sais pas, casernes de pompiers, hôpitaux, etc., là où se situe, où se regroupe la population la plus nombreuse. Tout à l'heure, je vous disais, les 69 morts, c'est essentiellement des gens qui sont morts de froid. Et notamment dans cette zone, en fait, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc ça a été assez compliqué très rapidement de pouvoir secourir ces personnes, parce qu'il fallait parcourir quand même des distances assez importantes dans des conditions compliquées pour leur donner les premiers soins. Donc ça, dans ce cadre-là, je le dis, en termes de gestion de crise, il y a peut-être d'autres solutions de gestion des risques, d'autres possibilités peut-être moins coûteuses, que les politiques de gestion des risques fait qu'actuellement la municipalité de La Paz. Ça me permet de voir le troisième point sur les contradictions donc, entre la maîtrise des enjeux de cet environnement de l'agglomération et la nécessité de développement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que donc cette société passénienne, elle a du mal à identifier son rôle dans dans l'occurrence des catastrophes et dans la construction des risques. Pour elle, elle est quand même dans un état d'esprit où, une ville moderne, c'est une ville qui a des belles routes, c'est une ville qui a des beaux équipements sportifs, c'est une ville qui a des belles maisons, etc., etc. Ce qui est à peu près notre imaginaire également, quoi. Sauf que quand on regarde ce qui s'y passe concrètement, on voit que c'est quand même compliqué d'avoir des beaux équipements. Enfin, c'est compliqué, en tout cas, c'est très 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 coûteux. Il faut avoir les moyens financiers de financer et l'équipement et la protection de ces équipements. Et donc, la politique de gestion de risque à la passe ne prend certainement pas suffisamment en compte les processus physiques et la manière dont sa politique elle-même vient modifier ces processus physiques. Puisque, je vous dis, la réponse est une réponse qui est essentiellement technique, voire même quasiment que technique, de résistance. On va résister au processus physique, on va résister à l'aléa. Et ce faisant, donc, on ne pense pas forcément à d'autres moyens de gérer la situation. Et surtout, on n'a pas enclenché une réflexion sur ce qu'était la métropolisation et donc les rapports entre ces deux villes, La Paz et El Alto. Alors, je dis, il n'y a pas cette réflexion parce que c'est pour la ville de La Paz, à peu près 45 millions de dollars qui est investi pour la gestion des risques sur 5 années. Donc, c'est beaucoup. Et le gros de cet argent, c'est sur les interventions d'urgence. Donc, c'est même pas construire des ouvrages, parce qu'en fait, même la construction d'ouvrages, finalement, est peu importante. C'est essentiellement déjà de nettoyer, maintenir les ouvrages construits. Donc, c'est 46%, c'est moins de la construction que de la maintenance des ouvrages construits. Et en plus, je dis, ça a des effets relativement limités, parce que ça implique qu'il y a quand même de plus en plus d'interventions d'urgence. Donc pour la municipalité de La Paz, c'est assez lourd, alors que la municipalité d'El Alto, sans être non exposée à des catastrophes, a un petit peu moins de difficultés parce que ses conditions physiques sont un petit peu sont différentes, et donc a une problématique vis-à-vis des aménagements urbains qui est un petit peu différente et surtout plus facile et moins coûteuse. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a deux villes qui sont complètement séparées, et donc chaque municipalité a sa manière de penser la gestion des risques et de construire les risques. Et donc, on a des types de risques qui sont complètement différents entre les deux villes, pour faire aussi court. Et l'Alto, c'est plutôt des risques liés à la pauvreté. C'est essentiellement du problème de ramassage des ordures, etc. Donc, on est vraiment dans une situation où les politiques de gestion des risques, qu'elles soient de façon passée, enfin, celle de La Paz, celle de l'Alto, sont fondées sur une approche qui se fait en termes de résistance, et que cette approche est vraiment très, très déficiente par rapport à la réalité du terrain, du contexte de ces deux villes. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que La Paz, enfin, je veux dire, les décideurs, les gestionnaires sont pas forcément non plus idiots, hein, enfin, ils sont même pas du tout idiots. Donc on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ont ce genre de politique? Donc moi, mon hypothèse, c'est de se dire, ils sont en concurrence avec d'autres villes en Bolivie, et que aujourd'hui, c'est pas qu'un phénomène lié aux villes du Nord. Les villes du Sud sont aussi en concurrence les unes vis-à-vis des autres, à l'échelle d'État, mais aussi à l'échelle d'un même État. Et donc, La Paz est en concurrence concrètement avec Santa Cruz. Ça pose de gros, gros, gros problèmes. Et donc, à l'échelle bolivienne, la ville moderne, c'est Santa Cruz. La Paz a vraiment une image de ville passéiste, etc., etc. Et donc, La Paz veut montrer que c'est justement pas une ville passéiste, donc met en place tout un ensemble d'aménagements très récemment, tout un ensemble d'aménagements. Et donc, pour ça, elle a besoin de construire ces aménagements pour protéger ces infrastructures et donc conserver une certaine attractivité. Pourtant, la municipalité sait très bien à peu près tout l'espace qui pouvait être urbanisé a été urbanisé. Et ce qu'on urbanise maintenant, c'est vraiment des espaces dans lesquels on sait, grosso modo, qu'il va y avoir des gros soucis. En revanche, c'est pas trop le cas à El Alto. Je dis pas, il y a des endroits qui sont un peu plus embêtants que d'autres, mais globalement, le terrain urbanisé, il est quand même présent à El Alto. Simplement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique en termes d'agglomération qui penserait les aménagements à l'échelle de l'agglomération? Justement, je vous dis, El Alto, c'est une municipalité qui est relativement pauvre, qui a finalement très peu d'équipements, ce qui est moins le cas à La Paz. Donc, on pourrait imaginer que ces équipements très très coûteux seraient des équipements qui pourraient être installés à El Alto et qui bénéficieraient à l'ensemble de l'agglomération. Et par exemple, dans le programme de recherche auquel j'appartiens, on essaye de poser l'hypothèse qu'il y a deux types d'espaces qui sont construits par les situations de crise. Les espaces qui sont vulnérables, les espaces à secourir, là où il va y avoir des besoins, là où la population est pauvre, là où la population est composée de personnes jeunes, là où est composée de personnes âgées, etc. Donc les espaces vulnérables, et puis les espaces où il y a des ressources pour aider ces populations à faire face à la situation de crise. Donc ça permet, en passant à l'échelle de l'agglomération, d'avoir une réflexion beaucoup plus adéquate entre où sont les espaces réellement vulnérables et où sont les espaces qui vont pouvoir permettre de répondre à cette vulnérabilité, aider la population. Ça pose un tas de problèmes, notamment parce que les deux municipalités différentes, donc a priori il n'y a pas de raison que la passe à y investir à El Alto, et inversement, mais ça pose aussi d'autres problèmes en termes par exemple de transport. Il n'y a pas de transport public, donc ça coûte relativement cher de se déplacer. Donc qui dit une politique d'aménagement d'infrastructures sur l'échelle de l'agglomération, dit aussi en fait penser autre chose que le risque, c'est-à-dire penser aussi les équipements de l'ensemble de l'agglomération, notamment en termes de transport. Donc c'est en fait une problématique qui est beaucoup plus complexe que celle uniquement de la gestion des risques au sens strict. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas de processus pour l'instant de gestion commune entre les deux villes, et donc qui permettrait entre autres de gérer les situations de catastrophe, il y a quand même une réflexion sur la gouvernance urbaine, qui n'est pas du tout liée au contexte urbain de la Passe El Alto. C'est ça qui est assez intéressant, mais qui est aussi justement intéressant en termes de gestion de risque. En 2009, en février 2009, on a voté une nouvelle constitution en Bolivie. On a changé la constitution. Et donc, les mois qui ont précédé, il y a eu une assemblée constituante qui se réunissait à Sucre pour voir justement un petit peu quels allaient être les nouveaux articles de cette constitution. Et je n'ai pas trop le temps de rentrer dans ce contexte historique, mais il y a eu une grande discussion sur est-ce qu'on relocalise la capitale, c'est-à-dire est-ce qu'on déplace le siège du gouvernement vers Sucre, d'où le gouvernement n'aurait jamais dû partir. Donc pendant des mois, il y a eu des disputes entre différentes villes, jusqu'à ce qu'à La Paz, il y a La Paz El Alto, un grand mouvement qui était la sede no se mueve, donc le siège ne va pas bouger, et où pour la première fois, parce que c'est vraiment deux villes qui vivent en opposition complète, il y a eu une réunion d'une grande partie de la population en disant bah non, on fait qu'une seule ville. Donc si vous déplacez La Paz, vous impactez l'Alto et inversement. Et donc ça montre bien que sur des enjeux assez importants, les deux villes quand même arrivent à se mobiliser et à se dire bon, bah, si on n'est pas ensemble, on est beaucoup plus faible. Donc on peut imaginer qu'en termes de gestion des risques, elles peuvent avoir toutes les deux le même intérêt. Sauf que je vous dis, techniquement aujourd'hui, il n'y a pas les outils d'intercommunalité, par exemple, comme ça peut exister en France.